Deux philosophes pour parler de ce temps nouveau, entre guillemets, que nous vivons depuis l'élection présidentielle. Deux philosophes, l'une Fabienne Brugère, qui a publié très récemment Le peuple des femmes avec Guillaume Leblanc, un tour du monde féministe, et puis Frédéric Worms, qui a publié Vivre en temps réel. Comment sentons-nous l'intensité du présent? Qu'attendons-nous de l'avenir? Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Vladimir Vitovski. Nous faisons tourner la Terre.
От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Мы не меряем землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам Атара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, кочки тискаем, зло не любя. И коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый синец всех ли сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе, но на запад, на запад ползет батальон, чтобы солнце взошло на востоке. Животом по грязи дышим, смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе росу пригубя. Землю тянем зубами за стебли, на себя, от себя.
Ce n'est pas un hasard, Frédéric Worms, si vous avez souhaité commencer cette émission avec cette chanson de Vysotsky, parce que ça implique l'idée de résistance, de société civile, d'espoir dans un avenir meilleur.
Effectivement, Vladimir Vysotsky, c'est la voix de la dissidence, mais de la dissidence russe sous le régime soviétique dans les années 70. Moi, je l'ai découvert par des amis qui revenaient de l'Union soviétique, et c'est un chanteur dont la voix a été réprimée. Je voulais essayer de dire un peu ce que nous vivons à travers cette voix, cette langue, et aussi ce retour dans l'espace et dans le temps. Moi, ce qui m'a frappé, même dans l'élection présidentielle française, c'est qu'on dit qu'il y a eu un barrage républicain contre l'extrême droite, mais il y a eu aussi ce barrage à l'échelle de l'Europe. Pour la première fois, je pense que beaucoup de gens ont aussi voté contre Poutine. C'est un vote qui a été aussi européen, mais d'une façon très profonde. Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui hésitaient à voter au deuxième tour se sont dit « je dois quand même y aller à cause de l'Europe, à cause de la Russie, à cause de ce qui se passe ». Et donc ça m'a frappé que pour parler de l'élection présidentielle française, on puisse passer par une voie russe, une voie aussi qui nous ramène dans le passé. Le retour du totalitarisme aujourd'hui, le retour de la dissidence. Voilà pourquoi, même pour parler de la France, on peut plus aujourd'hui parler seulement de la France. Il faut ces voix dans plus d'une langue et ce russe, cette langue russe, cette langue de la dissidence russe pour parler de l'Europe aujourd'hui.
Avons-nous voté contre Poutine, Fabienne Brugère, et dans quelle intensité du présent nous trouvons-nous ? Avez-vous eu l'impression la plus intime que nous avons vécu une campagne présidentielle comme une autre ? Ou est-ce qu'il y a un goût d'inachevé ?
Ce que je retiens déjà, et ça dessine malheureusement un horizon qui n'est pas toujours optimiste, c'est que en 2002, il y avait 20 millions de voix d'écart entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. En 2017, il y avait 10 millions d'écart en voix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il n'y en a plus que 5 millions. Il y a malgré tout une montée de l'extrême droite qui correspond, et ça c'est aussi l'envers du décor par rapport à ce que vient de dire Frédéric, qui correspond à des formes de nationalisme, de repli sur soi, mais aussi de désespérance. Et je crois qu'il serait temps de faire vraiment le diagnostic de ce qui nous arrive. Et moi, je suis pour ma part très très inquiète pour l'avenir. Et j'ai en tête cette phrase qui m'accompagne toujours d'ailleurs d'Adorno. On ne peut mener une vie bonne dans une vie mauvaise. Collectivement, notre vie est quand même de plus en plus compliquée, avec des figures de plus en plus d'antagonisme. Une partie quand même aussi de la population qui vit dans une grande vulnérabilité, fragilité. Vers quoi allons-nous ? Comment pourrions-nous dessiner un nouveau monde, un autre monde ?
Alors c'est ce à quoi vous vous employez dans la pratique de la philosophie telle que vous l'entendez, Fabienne Brugère. Vous avez publié des livres justement sur l'hospitalité, sur le féminisme. Ce sont des impensés de cette campagne présidentielle que nous venons de traverser. Mais c'est vrai que quand on regarde la cartographie de l'expression des votes entre les deux camps, on voit bien qu'il y a deux France. D'ailleurs, peut-on parler de deux France qui se dessinent selon les votes exprimés, Frédéric Worms?
La division fait partie du cœur même de la démocratie. La démocratie, c'est la division.
Vote. Sauf que la droite a été remplacée par l'extrême droite.
Donc voilà, la question, c'est pas tellement qu'il y a une division, il y a toujours une division, c'est même le but de la démocratie. C'est d'exprimer les divisions, les oppositions, et donc on doit souhaiter même qu'il y ait des divisions qui s'expriment dans un cadre par la parole, par un programme différent, par des controverses, par du débat, et pas par la guerre, pas par le conflit. C'est vraiment le but de la démocratie. L'idée d'ailleurs des nationalistes, c'est toujours l'idée d'un peuple uni. Et l'ennemi est dehors, il faut l'expulser, etc. Je pense au contraire qu'il faut assumer l'idée que les Français sont divisés. Il suffit d'aller dans un café en France, vous allez vous disputer, et heureusement. Mais la question, c'est quel type de division ? Moi, là où je suis inquiet, c'est qu'en effet, on n'a plus une division sur la base de principes communs, et notamment de la démocratie comme principe, en acceptant l'opposition de l'autre, mais on a plutôt une division maintenant entre ceux qui acceptent la démocratie et ceux qui la refusent. Et ça, c'est pas la même division qu'avant. Moi, je suis pas forcément nostalgique de l'opposition droite-gauche, mais quand même, droite-gauche, dans un cadre démocratique commun, avec des vraies alternatives, voire des alternances, ça permet quand même de construire quelque chose. Alors que là, on a l'impression qu'en effet, et c'est la frustration des gens, c'est-à-dire que d'un côté, on n'a plus qu'une opposition sur les principes mêmes, ce qu'on appelle le pire, par exemple, le pire absolu du côté de, en effet, l'extrême droite, d'ailleurs mondiale, hein, qui partout installe cette alternative brutale, le refus de la démocratie ou l'acceptation de la démocratie, du coup, ben, on peut plus discuter démocratiquement. On parle de la démocratie, mais plus dans la démocratie. Je pense que c'est un vrai danger, parce qu'on a besoin d'ouvrir des alternatives dans la démocratie, et j'espère que ça va se réouvrir maintenant, que d'une certaine manière, encore pour un moment, ce risque du refus de la démocratie est éloigné.
Fabienne, vous venez de parler de désespérance sociale. Peut-on affirmer aujourd'hui, deux jours après l'élection présidentielle, que les votes exprimés pour le Rassemblement national sont des votes affirmatifs pour le refus de la démocratie, ou sont-ce des votes qui expriment justement une forme de désespoir bien objectif, bien réel? On a vu des vidéos qui ont beaucoup circulé sur le net depuis dimanche soir, notamment dans des bureaux de vote de l'Est ou du Nord ou de la région PACA, dans des régions donc qui sont très front Rassemblement National. On a vu les réactions de personnes qui pensaient que le recours, le secours, c'était le Rassemblement National. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre ce désespoir social et cette affirmation antidémocratique? Ou est-ce qu'il faut être plus subtil, plus complexe?
Déjà, je ne me permettrai pas de parler, quoi qu'il arrive, à la place de ces électeurs et de ces électrices. Je pense que il y a une multiplicité de critères dans ce vote, et que les analyses des politistes nous montrent bien qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois, bien sûr, du nationalisme, du souverainisme. C'est pas tout à fait d'ailleurs la même chose. Il y a après aussi des problèmes de pouvoir d'achat. Il y a encore bien d'autres choses. Il y a sans doute un désamour de l'Europe, un refus de la mondialisation. Enfin, il y a une pluralité de critères. Ce que je pense en revanche, c'est que ce qui s'est joué dans cette campagne électorale et qui fait que nous sommes aujourd'hui frustrés, voire un peuple un peu dépressif, pourrait-on dire, alors que finalement, quand même, il y a eu une élection de gagnée, il y a un président de la République, mais c'est vrai qu'on est dans un état un peu cotonneux, un peu dépressif. Je crois que ce qui joue énormément, c'est que cette campagne présidentielle n'a pas été à la hauteur, je dirais, de nos vies. Parce que nos vies ont quand même été très bouleversées ces dernières années par la pandémie de Covid-19, avec tout ce qu'elle a fait surgir. D'un côté, la nécessité, finalement, parfois, d'une autorité et d'une urgence législative qui mène à des mesures qui limite la liberté. Elle a aussi empêché justement les voyages, les déplacements. Donc la pandémie a aussi renforcé le repli sur soi. Elle a fait de l'autre un ennemi, celui qui peut nous contaminer. Mais par ailleurs, elle avait aussi ouvert paradoxalement des rêves et la possibilité d'imaginer un monde plus démocratique, un monde nouveau. En particulier, bon, c'est des questions sur lesquelles Frédéric et moi avons travaillé. Elle a mis sur le devant de la scène cette question des vulnérabilités, des fragilités des vies, la nécessité, on pourrait dire, alors moi je dirais plutôt d'une société du care. Frédéric emploierait plutôt l'expression de soins. Et donc toute la prise en compte des vulnérabilités, la possibilité de mettre en œuvre des politiques de la vulnérabilité, la possibilité aussi peut-être de s'attaquer à la question des inégalités. Et donc je trouve que tout cet imaginaire d'un autre monde qui avait pu être imaginé en particulier peut-être au moment du premier confinement, qui a quand même été un confinement mondial, a vraiment volé en éclats. Et surtout, la campagne présidentielle, de mon point de vue, s'est vraiment déroulée avec un grand silence, comme si rien ne s'était passé. Et je crois que fondamentalement, il y a un profond malaise du coup dans nos vies à cause de cet oubli de nos vies ordinaires et de ce qu'ont été nos vies ordinaires pendant pratiquement 2 ans.
Circuler, il n'y a rien à voir. C'est vrai que tous les deux, vous travaillez sur l'intensité du présent, le rôle de la mémoire, la vie ordinaire. Et on a assisté à plusieurs temporalités successives. Très rapidement, il y a eu ce temps de la pandémie qui n'a pas été ou très peu exprimé durant la campagne présidentielle, y compris avant le premier tour, entre les deux tours. Et puis, c'était comme si c'était passé, comme s'il y avait une page de tournée définitivement. Et puis, on a été dans un présent hyper saturé, comme si notre passé présent, très proche, n'était plus là, comme s'il fallait passer à autre chose. Et en même temps, nous avons la sensation, vous qui êtes des spécialistes de notre intimité par rapport à nos vies, on a l'impression que on est précipité dans un présent, mais qui ressemble à celui qui nous a été proposé il y a 5 ans. C'est très, très étrange. Ce mot même de reprise, reprise, reprise de quoi d'ailleurs? Plus de rêve, comme dit Fabienne? Pas de rêve.
D'abord, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Fabienne, effectivement, sur l'idée que l'élection n'a pas été à la hauteur de nos vies, que le contenu de nos vies, de ce qu'on a vécu de très très lourd ces dernières années, qui est toujours là justement, la pandémie qui continue à nous travailler, la guerre elle-même qui est apparue bien sûr dans le débat, mais pas avec sa profondeur de traumatisme justement intime, historique, c'est-à-dire en fait de voir de nouveau des cartes d'Europe, la répétition de choses qu'on croyait dépassées, des cartes d'Europe avec des grosses flèches qui désignent des corps d'armée sur le territoire européen, sur des noms de lieux qu'on avait oubliés mais qui étaient déjà des noms marqués par la guerre. Enfin, cette sorte de répétition intime, c'est vrai que de ne pas l'avoir assumé, de voir la perspective historique et vitale très profonde mise sous le tapis, c'est très frustrant, d'autant qu'elle ressort quand même. En fait, elle est là. La peur que engendraient ces événements nourrit aussi cette peur de la démocratie, cette peur du débat, ce rejet de l'autre qui est une sorte de manière de dire, puisque tout bouge, bah, dressons des murs, dressons des frontières, puisqu'il y a une mondialisation qui devient dangereuse, qui devient critique, puisqu'il y a des guerres, puisqu'il y a des, voilà, fermons les murs, même si autour de l'Ukraine, les murs, les frontières se sont un peu ouvertes tout à coup, de manière partielle d'ailleurs, avec encore, bon, il y a ce refoulement qui est très dangereux. Parce que les choses sont là quand même, ces peurs sont là, et ce sentiment d'un ébranlement, ce sentiment d'un temps qui à la fois répète le pire mais n'ouvre plus un avenir, les virus, les variants qui se répètent, les guerres qui reviennent, ce sentiment est en effet très dangereux et il faut l'affronter maintenant. Et en effet, je partage aussi ce que disait Fabienne, à savoir que dans la crise, face à la guerre en Ukraine, il y a des réponses qui s'inventent quand même. Face à la pandémie, on aurait pu croire à tout à coup le retour des vrais sujets, des préoccupations vitales avec des vraies polémiques. Au fond, est-ce qu'il faut telle ou telle mesure sur les libertés? Est-ce qu'il faut tel ou tel impôt de solidarité locale et mondiale? Une petite taxe sur telle ou telle chose, les déplacements mondiaux.
Y compris sur la pandémie, d'ailleurs.
Exactement. Et tout le monde a son vaccin dans le monde entier, ce qui est très, très loin d'être le cas. Donc, on aurait pu, il y a une fenêtre pour les vrais sujets. On la referme et les sujets vont revenir par le refoulement parce qu'ils n'ont pas disparu.
Je vous propose d'écouter la voix de Paul Ricoeur à propos de la juste mémoire. C'est une archive INA du 9 septembre 2000.
Et pourquoi y a-t-il un problème de la juste mémoire? Parce que nos mémoires individuelles et collectives sont fondamentalement centrées sur leur malheur, plus que sur leur bonheur. Or, le malheur ne se communique pas. Il y a quelque chose d'incomparable dans l'épreuve du malheur. Or, l'histoire, précisément, introduit la comparaison. Elle introduit la comparaison là où les mémoires, nos mémoires, résistent à la comparaison. Et avec la comparaison, il y a l'idée d'une confrontation des malheurs, précisément. Et donc, la capacité du fond d'un malheur de reconnaître un autre malheur. Or, cela n'est pas possible sur le plan de la mémoire seule, mais sur le plan d'une mémoire qui a été longuement éduquée par la traversée de l'histoire. Or, la mémoire garde toujours une supériorité sur l'histoire. C'est que elle peut reconnaître, elle peut se reconnaître elle-même. Tandis que l'histoire n'a que le travail des documents. cette espèce de distance, peut-être nous aurons l'occasion d'en parler, qui commence par l'écriture. La mémoire n'est pas écrite, elle est parlée. Il y a une oralité foncière de la mémoire. Et c'est donc dans ce rapport d'oralité et d'écriture que la comparaison vient et la possibilité d'être juste à l'égard des autres et du même coup juste à l'égard de soi-même.
Nous venons d'écouter la voix de Paul Ricoeur, que vous connaissez tous les deux très bien, aussi bien vous, Frédéric Worms, que vous, Fabienne Brugère. Beaucoup de choses dans cette archive. Quelle mémoire garderons-nous de ce temps que nous vivons en ce moment? Et d'autre part, y a-t-il deux mémoires historiques qui se sont affrontées durant cette campagne présidentielle?
Ce que nous garderons de ce moment, si je puis me permettre d'être aussi affirmative, c'est que nous sommes dans un présent que je nommerai un présent des interdépendances.
C'est-à-dire
l'interdépendance que nous avons expérimentée pendant la pandémie. Nous avons été dépendants les uns des autres. L'interdépendance que nous expérimentons avec la guerre en Ukraine, et qui crée quand même le spectre, l'effroi d'une nouvelle guerre mondiale et qui renvoie à des mémoires justement précises.
Et spectre puis, de la Troisième Guerre mondiale qui est évoqué énormément par le gouvernement russe en ce moment même.
Oui, donc la question de la mémoire est importante parce qu'elle permet d'identifier des choses.
Petite seringue de peur.
Elle permet de reconnaître, elle sait où on va dans ces cas-là malheureusement. Et puis il y a une troisième chose, alors bien sûr qui n'est pas évoquée là dans le texte de Ricoeur, mais qui à mon avis crée une intensité de notre présent, une spécificité de notre présent. C'est toute la question du réchauffement climatique, de l'écologie politique, qui elle aussi est une question d'interdépendance. Ce que je dirais...
Avec un temps très resserré.
Avec un temps très resserré. Ce que je dirais, en revanche, sur cette question de la mémoire, voilà comment créera-t-on une mémoire de notre présent sur cette question de la mémoire telle qu'elle est mise en avant par Ricoeur, c'est qu'il faut toujours, moi je serai très très Humeienne sur cette question, je ferai revenir Hume, c'est-à-dire que la question de la mémoire, elle doit toujours se penser avec à côté la question de l'imagination.
Il faut que vous rappeliez qui était Hume.
Oui, alors Hume, c'est un grand philosophe du XVIIIe siècle qui bien sûr pose le mécanisme de la mémoire, la spécificité de la mémoire dans la nature humaine, son importance, mais qui dit aussi que la mémoire ne peut jamais aller sans l'imagination. Parce que la mémoire, elle a toujours le risque de ne renvoyer qu'au passé, précisément. Alors que l'imagination, elle permet de penser un futur. Et il me semble que ce qui nous manque aujourd'hui énormément, encore plus que la mémoire, c'est l'imagination.
Frédéric Worms.
Oui, je voudrais enchaîner un instant sur ce que vient de dire Fabienne, mais aussi sur un hommage à Paul Ricoeur. Hein. C'est là ce qu'on vient d'entendre, donc 2000. Paul Ricoeur vient de publier un livre qui s'appelle « La mémoire, l'histoire, l'oubli ».
À relire en ces temps troublés.
Aujourd'hui, dont Emmanuel Macron avait été un appui pour Ricoeur à ce moment-là. C'est pour ce livre-là.
Mais Emmanuel
surtout
Macron avait été l'élève et le collaborateur
de Ricoeur, surtout sur ce livre-là. Et Ricoeur le remercie d'ailleurs dans l'avant-propos à « La mémoire, l'histoire,
l'oubli ». Il n'a pas écrit le texte de Paul Ricoeur, hein, faut le préciser.
Non, mais pas du tout, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait, c'est leur relation de travail, mais en tout cas, il est remercié. Et qu'est-ce qui est important dans ce que dit
Ricoeur? Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron relie Paul Ricoeur? On en doute en ce moment.
Olivier Mongin, qui dirigeait la revue Esprit, qui était très proche de l'un et de l'autre, dit souvent que voilà, peut-être effectivement la question de la mémoire et de l'histoire devrait être plus centrale qu'elle naît dans, en tout cas, la politique explicite, apparente d'Emmanuel Macron, Olivier Mongin, à qui il reproche d'être trop quand même dans l'économie, comme si les problèmes des humains pouvaient se régler par l'économie, sans cette profondeur des conflits historiques dont parle si profondément Ricoeur ici. Et c'est vrai qu'on a l'impression que le retour du tragique surprend tout le monde, mais quand on est président de la République... Il surprend aussi, il est pris au dépourvu, c'est normal, hein, la pandémie, la guerre, c'était quand même pas prévu à ce point-là. Mais de prendre en compte la profondeur politique des mémoires en conflit, ce que Ricoeur analysait déjà dans La mémoire, l'histoire, l'oubli. C'est vrai que c'est très important. La France n'est pas une table rase. Il y a cette traversée de mémoire en conflit, de compétition des victimes, comme on dit parfois, de concurrence des histoires. Alors, il le prend en compte, je pense, sur l'Algérie, sur certains sujets. Il y a un discours historique, mais on voit bien que le discours d'Éric Zemmour, le discours de Poutine lui-même, c'est le retour du refoulé historique. C'est une revendication de la réécriture historique.
Et en l'effacement profondeur. De l'histoire de la part de Poutine, avec notamment, comme l'effacement première mesure, avec une obsession l'interdiction de mémorial.
Oui, mais avec une l'interdiction de mémorial, effectivement, qui ouvre la guerre en Ukraine, qui apparaît une semaine avant, comme une sorte de, voilà, un déni du stalinisme pour le reproduire, mais avec une autre obsession historique, avec la Grande Russie, etc. Donc l'histoire comme champ de bataille, c'est très important. Mais un autre mot sur ce que vient de dire Ricoeur pour le, ce qu'on vient d'entendre, hein, dans la voix de Paul Ricoeur, qui le relie très profondément aussi à la pandémie, à la santé publique. Ce que Ricoeur reproche à la mémoire, qui pourtant est liée au passé, effectivement, il veut la préserver du risque de l'imagination pour garder la vérité du passé. Pour dire, font, parce que les révisionnismes disent toujours, c'est pas vrai, c'est imaginé, c'est une fiction. Non, la mémoire est du passé, comme dit Ricoeur. Mais la mémoire est individuelle et il faut construire une histoire collective. Comment on fait? Et là, il y a une autre phrase très importante de Ricoeur qui, moi, a été ma boussole, y compris au comité d'éthique quand on faisait l'avis sur la santé publique. Ricoeur dit d'une formule très forte, la souffrance est privée et la santé est publique. Donc la mémoire est individuelle.
Comme il dit que
la mémoire
est,
c'est la blessure.
C'est
voilà.
Celle du malheur.
Voilà, la mémoire, c'est le malheur. Et comment, avec les malheurs des uns et des autres, on fait une histoire commune? Bien, c'est le passage de, je dirais, de l'expérience individuelle, de la souffrance individuelle à la politique. La souffrance est privée, c'est vrai. L'expérience du malade, c'est ce qu'on doit respecter. Mais la santé est publique, c'est vrai aussi. Il y a des conditions politiques pour la santé. Peut-être que on sera jamais en santé individuellement, mais il y a quand même une politique de santé qui fait qu'on est collectivement un peu mieux protégé qu'avant, que la prévention est admise. Bref, qu'on passe de la souffrance individuelle à la politique collective. Et là, la demande de Ricoeur nous dit, c'est pas si simple. Parce que plus on prend en compte la subjectivité comme on cherche à le faire dans, justement, le soin, le care, plus c'est difficile de construire une politique, on le sait bien, puisque comme Fabienne Brugère l'a rappelé, on travaille sur le soin depuis 20 ans en France, par exemple, sans que ce soit pris au sérieux politiquement. Comme si c'était une affaire de disposition morale, d'affect uniquement. Alors que construire une politique de santé, une politique de l'histoire, c'est non seulement possible, mais c'est nécessaire. Et c'est la reconnaissance des uns par les autres. Comment reconnaître le malheur d'autrui? Et pas seulement le sien propre. Et comment aujourd'hui construire une politique commune de l'avenir à partir de nos peurs? C'est le défi, et je pense que c'est possible.
On rejoint le problème de la justice sociale.
Je pense qu'avec les grands dangers collectifs d'aujourd'hui, c'est redevenu possible. On n'est plus dans l'individualisme de la souffrance. On est maintenant dans une santé globale. Chacun sent que les problèmes sont communs, et chacun sent que ce que demande Ricoeur est ce qu'il faut faire.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Fabienne Brugère, The House of Love, Shine On.
Things are in a garden in the house of love, sitting lonely on a plastic chair. Sun is cruel when he hides away. I need a sister, I'll just stay.
Je suis voué à la multi... Alors, je ne vais pas dire multiculturalisme, multiculture, parce que c'est un mot impossible aujourd'hui, mais à la multi-appartenance, voilà. Je suis juif et grec. Je suis déconstructeur de la philosophie et philosophe. Je suis français et européen et quelquefois, comment dire, j'en appelle à un cosmopolitisme au-delà de la citoyenneté. Je suis pour le français, pour la langue française, qui est la seule langue que je parle, que j'aime, la seule dans laquelle je puisse écrire, qui me transit, qui transit tout mon être. Mais je me méfie naturellement du gallocentrisme ou de l'enfermement nationaliste dans la langue. Je suis pour plus d'une langue, c'est une définition que j'ai donnée à la déconstruction, plus d'une langue. Je suis pour l'allemand, pour l'hébreu, pour l'italien et pour l'arabe. Et je regrette de ne pas parler toutes ces langues-là. Mais je ne veux pas renoncer, ça, mon inconscience. C'est comme ça que Freud définit l'inconscient. Ce qui ne renonce à rien. Alors, mon inconscient ne renonce à rien. Je ne renonce pas à la philosophie, je ne renonce pas au judaïsme, à un certain judaïsme, comme je le dis quelquefois, tout seul, le dernier des juifs, bon, à tous les sens de ce terme. Et je ne renonce pas à la philosophie, je ne renonce pas au judaïsme, je ne renonce pas à l'Europe, mais je peux dire du mal de toutes ces choses-là. C'est comme ça que je suis, je ne dirais pas enraciné, mais planté. Je me plante comme quelqu'un qui aurait voulu pousser n'importe où. Que pousser dans beaucoup de... un peu partout dans le monde. Ouais.
Nous venons d'entendre la voix de Jacques Derrida, grand philosophe devant l'éternel, qui nous permet de mieux comprendre, je crois, notre présent grâce à cette sorte de confession. C'est un philosophe de l'altérité, c'est un philosophe qui nous a appris l'hospitalité, c'est un philosophe qui nous a appris à penser dans la multi-appartenance. Et j'avais envie, en écoutant cette sincérité et ce ton enthousiaste de Jacques Derrida pour tenter de se définir et pour expliquer qu'il est impossible de se définir, de vous demander à chacun d'entre vous, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, Fabienne Prugère ? Je, aujourd'hui, alors, trois jours après l'élection.
Justement, ça renvoie bien sûr à ce que vient de dire Derrida avec son inconscient qui ne renonce à rien. Dans la chanson qu'on a entendue de The House of Love, il y a cette expression « I don't know who I am ». Je crois que je dirais en partie que je ne sais pas qui je suis parce que je suis plusieurs. En même temps, nous sommes dans une époque où de plus en plus, on est identifié. On est identifié par sa classe sociale, on est identifié par son genre, et donc effectivement je suis une femme, on est identifié aussi par ce qui renvoie à ce que l'on appelle culturellement la race ou l'origine ethnique. Donc de plus en plus, nous sommes assignés à une identité et à des classifications. Ce que j'aime beaucoup chez Derrida, c'est cette liberté et cette capacité à s'échapper du « je suis quelque chose » ou « je suis quelqu'un » et de dire « mon inconscient ne renonce à rien, je suis planté là, ça, je peux pousser n'importe où ». Moi, je me reconnais beaucoup dans cette définition plurielle de l'identité qui laisse aussi la possibilité de penser la question des différences. Et je crois que l'une des grandes problématiques, mais ça pour ma part je le dis depuis plusieurs années, l'une des grandes difficultés de la culture à la fois éthique et politique française, c'est cette difficulté à faire avec les différences. Et c'est cette difficulté à comprendre que la notion de république, ce n'est pas une unité déjà fermée, mais sinon on va la fissurer justement de partout. La république, elle se construit avec des identités, avec des ouvertures. Et là-dessus, le dernier séminaire qui vient de Derrida sur l'hospitalité, qui vient d'être publié, est absolument incroyable, parce que justement Derrida reprend la notion d'ipséité, et c'est à travers cette question de l'identité de repenser toute la possibilité de l'accueil, sans être pour autant naïf sur ce qui peut se jouer en termes aussi de rapports de domination dans les relations entre les uns et les autres. Donc, je ne sais pas qui je suis, mais je sais que je suis plusieurs.
Et vous, Frédéric ?
Je m'attendais pas à cette question qui est profonde, qui est redoutable.
C'est une question éminemment politique aussi en ce moment.
Voilà, qui suis-je ? C'est une question politique. Derrida, justement, qu'on accuse beaucoup d'une déconstruction tous azimuts, de tout laisser en ruine. En réalité, on voit bien que ce qu'il déconstruit, c'est une certaine manière de se laisser piéger par les « je suis », mais de les assumer. Il dit « je suis français », en tout cas je suis francophone, mais en même temps je parle plus d'une langue, et le français est travaillé par plus d'une langue. Il revendique son judaïsme, et un certain judaïsme par opposition à d'autres, parce qu'ils sont en guerre civile, les judaïsmes aussi, entre eux, de l'intérieur. Et il faut le rappeler, c'est très important de montrer que chaque appartenance est plurielle, et est une manière d'être ceci ou cela. Moi, ce que j'ajouterais, alors moi je vais pas me dérober devant votre question, Laure, parce que c'est un beau défi. Je pense que moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait « Revivre ». Et j'avais commencé par l'idée de « je suis ce que je revis ». D'une manière, d'abord, on ne choisit pas. On hérite ou on vit certains traumatismes, certaines peurs. On les voit. Aujourd'hui, vous nous parlez du temps. C'est vrai qu'on revit certains traumatismes. C'était un peu angoissant de se dire « voilà, la France est toujours divisée par les mêmes tensions, par les mêmes guerres civiles intérieures, comme les États-Unis. D'ailleurs, la guerre de sécession n'est pas finie. On en voit la guerre civile espagnole reparaître en Espagne, le stalinisme reparaître en Russie. » Vichy réapparaître en France, avec aussi encore plus à droite que Marine Le Pen, d'une certaine façon, une sorte d'incroyable reviviscence. Donc on revit des traumatismes. Moi, je suis ce passé-là. Je suis travaillé comme tout le monde par certains éléments de ce passé-là. J'y résiste. Et puis, je suis aussi ce que j'essaye de faire en ce moment. Je suis aussi celui qui parle avec vous, celui qui essaye de travailler dans des institutions, d'agir avec des jeunes générations.
Celui qui croit à la douceur du printemps.
Exactement.
C'est comme ça que vous aviez commencé à revivre.
Oui, il y a le beau revivre, le revivre de la renaissance contre le revivre du traumatisme, le revivre de l'éducation, le revivre du travail commun, le revivre de l'institution. Je ne crois pas du tout que ce jeu soit dépendant du monde. Et donc oui, je suis un peu ce que je fais. Et j'essaye de faire ce que je peux. Mais en même temps, je pense vraiment que c'est une belle question. Et il ne faut pas se dérober, voilà, comme Derrida. Je pense qu'on est quand même en France. On a notre carte d'électeur en France. On assume aussi ce pays divisé en dialogue avec lui-même. Et qui est quand même un pays profondément démocratique dans cette division intérieure que Derrida a pensée, justement. Il n'a pas déconstruit pour détruire. Il a déconstruit ce qui nous empêche de penser notre débat intérieur. C'est un peu comme Merleau-Ponty arrive au Collège de France et il dit, voilà, je vais ici pratiquer la recherche libre, c'est-à-dire mon désordre intérieur. Assumer aussi ces questions. Moi, je dirais à chaque étudiant aussi, trouver votre question à vous, essayer de montrer comment elle contribue aux questions communes. Chacun peut contribuer par quelque chose à la fois à lutter contre ce qui nous menace et à faire ce qui peut nous faire avancer, en fait.
Beaucoup de questions ont été éludées durant ces deux tours de l'élection présidentielle. Parmi celles-ci, évidemment, l'urgence écologique a rattrapé un peu Emmanuel Macron dans l'entre-deux-tours. Le problème des femmes reste un grand impensé. Cette question-là, qui pourtant a été mise en exergue par le président Macron dès le début de son premier mandat, malgré quelques efforts, n'a pas été véritablement portée comme un étendard du futur second mandat du président Macron. Pourquoi, Fabienne Brugère ?
Je pense qu'il y a de plus en plus...
Alors c'est une question essentielle, oui, dans toutes les démocraties.
C'est une question...
Et pour les hommes aussi.
Et c'est une question essentielle mondialement. et y compris bien évidemment pour tous les pays qui ne sont pas démocratiques et où justement peuvent se jouer des systèmes patriarcaux très 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 durs. Je pense que, enfin, c'est en tout cas ce qu'on a analysé avec Guillaume Leblanc dans Le Peuple des Femmes, quand on est parti sur l'idée de faire un diagnostic, on pourrait dire, des mouvements féministes à travers le monde, vraiment, ce dont on a pris conscience, c'est que dans la politique actuelle telle qu'elle se joue, et donc à travers les élections, ce que les partis peuvent construire comme programme politique, il y a de plus en plus un divorce entre les partis politiques et les mouvements sociaux. Et donc, quand le féminisme est un féminisme de mouvements sociaux, ce qu'il est de plus en plus, c'est-à-dire des assemblées, des grèves, des marches, mais aussi des constitutions de collectifs, ce féminisme-là n'arrive pas à pouvoir être écouté et compris par les partis politiques. Alors pourtant que il est de plus en plus visible. Il est de plus en plus visible grâce aussi, on pourrait dire, à la contagion des réseaux sociaux, et qu'il est aussi extrêmement intéressant parce qu'il est transnational et qu'il pourrait donc permettre justement de sortir de questionnements trop de questionnements nationalistes. Mais il est oublié. Il est oublié à mon sens. Parce que tout simplement, eh bien, on ne veut pas réellement que les choses changent. Et donc, on ne veut pas réellement, pour beaucoup, que les rapports hommes-femmes changent, que la question des sexualités évolue. Et pourtant, il y a quand même de plus en plus de monde qui porte ces questions-là. Donc, il faudra bien les prendre en compte.
Autre sujet qui n'a pas été abordé durant la campagne présidentielle, mais qui semble déjà se profiler comme une possibilité de dialogue, peut-être par référendum, c'est la question de la fin de vie. Or, vous vous êtes tous les deux intéressés, philosophiquement parlant, à cette problématique ô combien cruciale aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la voix de Didier Sicard, à propos de la loi Leonetti sur la fin de vie. Didier Sicard, qui fut votre président au Conseil éthique, c'était une archive de l'Heure Bleue, c'était le 6 avril 2021.
Un débat politique, ça doit avoir de la dignité. Et je trouve que, en catimini, que ce soit l'opposition plutôt à droite et les porteurs de la loi plutôt à gauche, qui s'écharpent pendant quelques heures sous les regards curieux, interrogatifs, goguenards un petit peu des médias qui se disent « comment ça va se passer ?» Je trouve que c'est indigne. Je pense qu'on peut avoir des réflexions en profondeur. Je crois que la loi Claes-Leonetti est une loi qui est très unique dans le monde. Il y a peu de pays qui en ont une sur la fin de vie. Elle permet l'accompagnement en fin de vie avec une sédation profonde jusqu'à la mort, et qui permet à tout être humain qui ne supporte plus l'existence compte tenu de sa maladie, qu'elle soit neurologique, cancéreuse, cardiaque, vasculaire, pas la psychologie, la dépression, elle n'y accède pas. Mais quelqu'un dont la vie est douloureuse, comme on le parlait, est insupportable, parce que souffrir fait peur à tous les Français de façon légitime, a parfaitement le droit de s'endormir paisiblement dans un entourage qui voit que la fin de vie, en quelques heures, la bougie s'éteint. Mais on la souffle pas. Et donc il y a quelque chose qui me paraît malheureusement très peu entré dans l'univers culturel imaginaire des Français et la part des médecins qui se considèrent comme dépositaires du choix, alors que c'est la personne de la malade ou du malade qui est important à reconnaître.
Alors, référendum, convention citoyenne, Emmanuel Macron a jeté des ponts vers l'avenir sur ce douloureux et très compliqué problème. Frédéric.
Oui, Moi, je voudrais vous proposer une boussole pour tous ces problèmes, parce que c'est vrai qu'ils arrivent les uns après les autres et ils ne disparaissent pas, effectivement. Mais il faut se donner une orientation, une boussole. Ce dont Didier Sicard s'étonne dans l'archive qu'on vient d'entendre, c'était en plein confinement, il faut s'en souvenir, sur la santé publique, il y avait beaucoup de sujets. Et tout à coup, au Parlement, est ressortie la question sur l'euthanasie et la fin de vie. Et les gens ont l'air surpris. Mais les questions ne disparaissent pas, effectivement, il faut les affronter. Or, quelle est la boussole? La boussole, c'est de comprendre que sur ces sujets-là, et ça vaut aussi pour le féminisme, j'en dirais un petit mot. En réalité, les débats qui ont l'air comme ça très, très violents le sont, mais pas sur des projets de vision du monde générale, positive, comme si on pouvait tout faire, n'importe quoi dans le genre, n'importe quoi avec la mort, etc. Je pense qu'on est sur des débats, au contraire, sur des exigences qui font face à du négatif, à quelque chose de tragique et, ou de violent, et avec des exigences minimales. Sur la fin de vie, la question, Didier Sicard le dit implicitement, je vais le dire avec d'autres mots, c'est toujours de peser la mort contre pire que la mort. C'est des choix forcément tragiques. On n'est pas en train d'être dans un débat entre, comme ça, deux conceptions de la liberté abstraite. C'est au fond comment on fait. Effectivement, il y a deux conceptions. Si on met en effet la mort comme le mal absolu et la vie avec un grand V toujours première, même dans des situations qui peuvent être en effet pires que la mort, avec des souffrances, alors on va refuser des choix qui peuvent entraîner la mort délibérément, c'est le débat sur la fin de vie. Si on dit au contraire, la mort reste la boussole, hein, mais il peut y avoir pire qu'elle, et on peut la prendre elle-même, la mort, comme un moindre mal, ce qui est quand même quelque chose de tragique, dire la mort est un moindre mal pour quelqu'un qui, comme moi, par exemple, moi je me définis comme vitaliste critique. La mort reste la référence du mal pour un vivant. Mais parfois, en effet, on peut la choisir comme un moindre mal, forcément tragiquement, et en respectant aussi cette forme de mort qui est l'humiliation, l'humiliation extrême. Donc on peut avoir un débat sur la fin de vie avec cette boussole, de dire c'est tragique, c'est le négatif, et en même temps, oui, on peut avoir des repères, on peut refuser le pire, contre un mal qui serait moindre. Voilà, on peut refuser le pire et accepter un moindre mal, et c'est un projet positif de résistance et de vie. Sur le féminisme, c'est pareil. Les gens ont peur parfois des féminismes. D'ailleurs, ils sont pluriels. Fabienne le sait bien, il y a plusieurs féminismes qui discutent entre eux. Mais au fond, le féminisme, c'est d'abord le refus d'une violence faite aux femmes. C'est d'abord quelque chose de minimal. C'est d'abord le refus des discriminations. C'est le refus qu'une femme et un homme, avec le même métier, soient pas payés de la même façon. C'est le refus que les hommes dominent les femmes, alors que ce sont deux façons, et parmi d'autres encore, d'être des êtres humains libres et égaux en droit. Et donc, au fond, voilà, il faut s'orienter sur des exigences minimales face à des dangers maximaux. Et des exigences minimales pour tout le monde et sur tous les sujets. Et du jour où on a cette boussole critique, je pense qu'on n'est pas perdu. C'est pas, faut pas que les gens aient l'impression qu'on ouvre une pelote, une boîte de Pandore de tous les sujets, la fin de vie, le féminisme, le climat. Non, on a une boussole qu'il faut absolument redonner aux gens aujourd'hui. Et c'est vrai que notre frustration démocratique, c'est que, au lieu de parler de ces sujets à partir de principes communs, où on n'est pas forcément tous d'accord, mais au moins chacun ses repères, ben voilà, les sujets vont ressortir dans le refoulé. Didier Sicard, je m'en souviens, j'avais partagé avec lui cette sidération. Tout à coup, en pleine pandémie, le Parlement se saisit de la fin de vie. Ben non, c'est pas une surprise. C'est le même problème vu par un autre bout. C'est le problème, notre dignité minimale d'êtres humains face au pire.
Dernier mot, Fabienne, si je vous dis le mot espoir, vous me répondez quoi?
Je vais répondre futur, nouveau monde, alter réalité.
Résistance.
Mais merci beaucoup à vous deux. Fabienne, je rappelle que votre dernier ouvrage, co-signé avec Guillaume Leblanc, s'intitule « Le peuple des femmes, un tour du monde féministe », c'est aux éditions Flammarion. Et que vous, Frédéric Worms, votre dernier ouvrage s'intitule « Vivre en temps réel », tout un programme. Merci infiniment à vous deux.
Rien peut me ramener plus en arrière que l'odeur de la pâte à modeler. Maman est prof de maternelle, c'est même la maîtresse d'à côté. J'ai 5 ans et je passe par la fenêtre pour aller me planquer dans sa classe. Elle me dit t'es pas censé être là, j'ai dit près de toi c'est là ma place. J'aime que les livres, je préfère être seul, donc je suis plus content quand il pleut. Je fais quelques cours de catéchisme, mais je suis pas sûr de croire en Dieu. J'ai 7 ans, la vie est facile, quand je sais pas je demande à ma mère. Un jour elle m'a dit je sais pas tout, j'ai perdu foi en l'univers. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah.
ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je balaye les feuilles mortes sur le terrain. Le froid me fait des cloques sur les mains. J'ai 10 ans, je suis fan de basket. Je m'habille en petit américain. Mon père, mon héros, m'a offert les Jordan 8 avec les scratchs. Donc je fais tout pour le rendre fier. Quand il vient me voir à tous les matchs, je rentre au collège, on me traite de bourge. Normal, mes chaussures coûtent une blinde. Je veux plus les mettre, mon père s'énerve. Toi, tout, nous, on n'avait rien. J'ai 12 ans, je fous le bordel en cours pour essayer de me faire des potes. Le prof de musique se fout en l'air, il est au paradis des profs. À 11 ans, je voulais juste en avoir 13. À 13 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Souvent je suis tombé amoureux, mais pour une fois c'est réciproque. J'abandonne lâchement tous mes potes. Je vois plus que ma meuf, on fume des clopes. 14 ans, je suis juste un fantôme. Du moins c'est ce que disent mes parents. Chérie veut que je traîne plus qu'avec elle. Pourtant elle me fait la gueule tout le temps. Vu que je déménage, ça nous sépare. Je me dis que l'amour c'est surcoté. Mon frangin m'éclate au basket, alors je préfère abandonner. J'ai 15 ans, je regarde Kids en boucle. Je traîne avec des gars comme Casper. Mon père est sévère avec moi, donc je le répercute sur mon frère. À 15 ans, je voulais juste en avoir 16. À 16 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Je descends les marches, la peur au ventre, pour intercepter mon bulletin. À la maison, c'est la guerre froide, on se comprend plus donc je dis plus rien. J'ai 16 ans et je passe par la fenêtre pour rejoindre les autres au skatepark. On boit des bières, on fume des joints et je raconte tout ça dans mes raps. Les années passent, même un peu trop, au point que j'ose plus chanter mon âge. Mon frangin filme quand je mets la bague, ma frangine anime le mariage. Les choses que j'ose dire à personne sont les mêmes qui remplissent des salles. Maman est là, mon père est fier et l'univers est pas si mal. À 16 ans, je voulais juste avoir 17. 17 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. À 5 ans, je voulais juste en avoir 7. À 7 ans, j'étais pressé de voir le reste. Aujourd'hui, j'aimerais mieux que le temps s'arrête. Ah, ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête.
Et c'est avec Aurel San que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Thomas Langlin qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Marie Clément. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka Assayas pour la suite de son Very Good Trip.